Donc, je vais lire 1 Timothée 6 en entièreté, donc de 1 à 21. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, en croyant que la piété est une source de gain. C'est en fait une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font la profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous.
Sans plus tarder, je remercie une des finissantes, Sarah, que j'ai eu l'honneur, comme je vous ai dit, d'enseigner pendant plusieurs années, qui a fait la lecture. Merci beaucoup. Ce matin, ce que je veux approcher, en ce dimanche d'AGA, j'ai regardé le titre, c'est Solange qui a fait le semainier. Donc, je remercie, mais j'ai eu un sourire de voir la richesse de Dieu avec une mallette d'argent. Je me dis, de quoi qu'il pense que je vais parler? Mais c'était à point. Dieu a bien guidé, donc je suis très content. Dans le texte que Sarah a lu, donc, comme je vous dis, je vais quand même être bref parce qu'il faut retourner pour midi et 45 ici, le temps de faire, prendre sa nourriture et tout. Mais on va prendre quand même le temps de s'arrêter et essayer de comprendre du mieux possible la parole que Dieu nous adresse ce matin. Donc, il y a deux parties du texte qui m'a interpellé. Sur ces deux parties, je suis resté à prendre une réflexion que je voudrais partager avec vous ce matin. Il y a d'abord la première partie du texte de verset 6, si on peut projeter le 6 à 10, qui est d'abord, Paul va donner un conseil à un jeune pasteur. Il est en train de donner une exhortation. Il est en train de lui dire, fais attention à ça, Fais attention à ceci ou à cela. Donc, si on regarde la première partie qui serait, certes, elle est d'un grand profit la piété pour qui se contente de ce qu'il a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans le piège et dans de nombreux désirs insensés et pernicieux qui prolongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés de multiples tourments. Tes jeunes pasteurs, tu rentres dans l'œuvre, tu entends ça, tu dis, ça va être lourd, ça va être difficile. C'est un conseil qui semble être précieux pour Paul de dire à ce jeune pasteur, hey, moi, je suis déjà passé par là. Voilà le danger, fais-y attention. Mais attention, Paul n'est pas en train de dire que c'est mauvais d'être riche. Paul n'est pas en train de dire à Timothée, tous ceux qui sont riches, mettez-les dehors de l'Église. On aurait un problème. Si on est au Québec, puis on dit, écoute, on ne veut pas de riches dans notre Église, sortez, mais écoute, on va faire l'Église dehors souvent. Donc, il est important qu'il y ait des riches parmi nous. Il est important que les gens qui aient de l'argent fassent partie des Églises. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est important dans le texte, si vous regardez au début du texte, à partir du verset 3, il fait plus appel à Timothée de faire attention à des faux docteurs, à des faux enseignants de la parole de Dieu, et qu'ils ont l'apparence de la piété, qu'ils ont l'apparence de faire des bonnes choses, mais qui enseignent un faux évangile. Un évangile matérialiste, un évangile où ce qu'on peut compter sur nous-mêmes. Voilà le danger de la richesse. C'est de dire, écoute, moi j'ai tout ce qu'il me faut et je suis capable d'arriver par moi-même. Si vous avez eu le privilège, j'ai bien le privilège de voyager dans des pays pauvres, c'est un privilège. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, par exemple. Le contentement, vivre avec ce qu'ils ont. Donc si on a le privilège de voir les gens prier pour que Dieu leur accorde le nécessaire, juste de manger et de boire. Combien ce matin qui ont prié pour avoir de la nourriture et de l'eau? Combien d'entre vous ce matin vous êtes dit en vous levant, « Oh, il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien dans le compte de banque, il n'y a pas d'eau à la maison, mes enfants vont mourir. » Combien d'entre vous ont fait cette prière-là? Personne. Donc, vous êtes tous les riches que la Bible parle. Ici, on est tous riches. Mais la richesse, le problème, c'est de se dire, j'ai même plus besoin de Dieu. Et Paul va dire à Timothée, fais attention à ces enseignements, qui est très nouveau, à notre, qui n'est pas nouveau du tout, mais qui reprend vie dans notre société aujourd'hui. C'est, t'es capable. Par toi-même, là, tu vas y arriver. Tu es capable d'y arriver. Tout ce que tu veux, tu le... Moi, quelqu'un m'a dit, ben oui, tout ce que tu veux, tu le peux. J'ai dit, voilà, je veux être le président des États-Unis demain matin. C'est utopique de croire tout ce qu'on veut, on le peut. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que je mets la capacité et les études de côté? Non, on vient de célébrer des finissants, je ne peux pas vous dire, faites rien. Bien évidemment, on peut faire quelque chose. Mais même cette chose que nous pouvons faire, c'est lui qui nous dit, c'est en moi, c'est moi qui crée le vouloir et le faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et là, Paul dit à Timothée, ce n'est pas la richesse qui est mauvaise, c'est ce qu'on en fait. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et là, faites attention aux faux docteurs, faites attention aux faux enseignements, faites attention à ceux qui vous disent, vous n'avez pas besoin du Christ, faites attention à ceux qui vous disent, je peux tout faire par moi-même, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi, j'aime titiller les gens. J'aime vraiment, je suis un petit taquin. Et j'ai eu le privilège de travailler à la cour pendant des années. Et quand je rencontrais des avocats, je sais que c'est des gens qui sont réfléchis, ils me disaient, comment ça va? Je leur disais, ah, comment allez-vous? Ils disaient, oh, on se maintient. Et toi, comment tu vas? J'ai dit, ah, je suis maintenu. Et ça les gelait d'un coup. Dit, je comprends pas. J'ai dit, est-ce que vraiment tu te maintiens? Il dit, oui. J'ai dit, mais tantôt tu disais, tout est hors contrôle. J'ai dit, moi, je suis maintenu par quelqu'un qui est hors de moi. Est-ce que tu veux savoir c'est qui? Ah, encore, tu veux prêcher, mais c'est pas grave. Mais au moins, je les titillais, au moins, je leur montre que sans Dieu, il vous manque quelque chose. Moi, j'admire le conseil que Paul donne à Timothée, même si je trouve ce conseil-là est dur. Écoutez, Paul dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Franchement, j'ai le goût d'ajouter, qu'est-ce que tu fais du logement? Paul n'a jamais vécu au Québec. Qu'est-ce que tu fais du logement? Si je vous donne la nourriture et le vêtement en hiver, vous n'avez nulle part où vous chauffer au Québec, vous ne passerez pas l'hiver. Donc, il s'est arrêté même au l'essentiel, au strict minimum pour dire, regardez, juste le strict minimum me suffit. Philippiens 4, 11, j'ai appris à me suffire dans l'abondance comme dans la disette. Est-ce que ce matin, on est capable de dire ça en tant que croyant? De dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est suffisant. Ma grâce te suffit. Pourquoi je trouve encore ce conseil très dur? Il va dire, car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les amis, la racine de tous les maux. Je dirais à Paul, si j'étais Timothée, je t'aime bien, Paul, je sais que tu es un grand enseignant, mais la racine de tous les maux, tout. Je suis malade, c'est à cause de l'argent. Je ne mange pas, c'est parce que j'aime l'argent. Non, Paul est en train de lui dire quelque chose, mon ami. Si tu mets l'argent à la place de Dieu, tu viens de faire de l'argent la racine de tous tes maux. La vie, c'est une question de priorité. C'est qu'est-ce qui dirige ma vie? Est-ce que c'est ce que Dieu dit ou est-ce que c'est ce que j'ai? En passant, la richesse n'est pas que de l'argent. On peut être riche d'intelligence. On peut être riche de santé. Il y a toutes sortes de richesses. Mais qu'est-ce que j'en fais de ma richesse? Ça me rappelle une image, une conviction que j'ai eue quand j'étais très jeune dans la foi. À un moment donné, je roule et vraiment, j'ai une conviction, une intuition qui me dit « Arrête et regarde l'arbre à côté d'une berge. » Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me dis « Attends, je suis en train de devenir fou, là. C'est un stop. Pourquoi tu veux que je regarde l'arbre? » Et Dieu me dit « Regarde l'arbre, observe-le. » J'ai dit « Ok, j'observe. Qu'est-ce qui se passe? » Il me dit « C'était quel arbre? » J'ai dit « C'est un arbre fruitier. Là, il y a des fruits. » Il me dit « Ok. Les fruits, c'est pour qui? » Je suis comme « Comment c'est pour qui? » C'est pour ceux qui mangent. Puis l'intuition me dit, ta vie va être comme ça. Ce que tu produis, c'est pour les autres. Jamais pour toi. OK. Donc, ce que l'arbre fait, c'est pas pour moi. OK, j'ai compris, je m'en vais. Non, l'intuition m'arrête encore. Il me dit, pourquoi l'arbre donne du fruit? Je dis, parce qu'il est fait pour ça. Il dit, non, parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Il dit, je te plante en moi et rappelle-toi toute ta vie. Tout ce que tu vas produire, c'est pour les autres. Et ça ne m'est jamais sorti de la tête. Toutes les dons que Dieu me donne, je le mets à son service. Et pasteur Dominique me dit, pourquoi à chaque fois qu'on t'appelle à prêcher, tu dis toujours oui? J'ai dit, mais à qui je dirais non? C'est Dieu qui appelle. Tu ne peux pas dire non. Donc, moi, ma vie est conditionnée comme ça. Maintenant, vous, Timothée parle de l'argent. Je ne parle pas juste de l'argent ici. Je parle de vos dons, des portions que Dieu vous a données. Répondez à vous-même. Est-ce que vous le mettez au service de Dieu ou vous faites comme le serviteur qui disait, je sais que tu es un maître sévère, je l'ai caché et je vous le redonne. Qu'est-ce que vous faites avec les dons que Dieu vous donne? Qu'est-ce que vous faites avec la richesse que Dieu vous donne? Qu'est-ce que vous faites avec la santé que Dieu vous donne? Qu'est-ce que vous faites avec les compétences intellectuelles que Dieu vous donne? Est-ce que vous le mettez au service de Dieu ou est-ce que vous dites, non, moi c'est pour moi et je suis tellement brillant que je n'ai pas besoin des autres? Je vous rappelle qu'il y en a un qui avait dit, écoute, c'en est fait, je suis très riche, je vais remplir mes greniers, je vais m'embarquer des plus grandes et je vais tout stocker, toute ma richesse et mon avoir et la retraite. Comment Jésus l'a appelé? Insensé, malade mental. Aujourd'hui même, c'est fini pour toi. C'est là la racine. Sa racine était sa fortune. Il comptait que sur lui, sur ses avoirs. Et Christ va lui montrer, tu n'as rien apporté dans ce monde. Tu ne peux rien apporter. Tes greniers qui ont été construits, qui sont remplis de grains, ta richesse, toutes tes avoirs, tes placements financiers, ils vont rester. Et ce soir, toi, tu pars les mains vides. Quelle leçon de vie! Quelle leçon de vie d'apprendre à compter que sur Dieu et Dieu seul. Ça, c'est la première partie. Entre la première et la deuxième partie, qui se trouve un autre conseil du verset 17 au verset 19 que je vais lire pour vous, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes ces choses afin que nous, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Proverbe 3. Ne te confie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Et là, on a l'impression que le conseil premier était beaucoup plus sévère. Tandis que le conseil, le deuxième, est non, non, restez riche, mais faites du bien avec votre richesse. Mais d'abord, il met en garde le problème de la richesse. Et il va dire à Timothée, quoi que tu sois jeune, ce n'est pas grave. La main de Dieu est sur toi. Recommande-les aux riches. Ne sois pas intimidé qu'ils soient riches. Dites-leur de faire du bien, d'être libéral, de donner de bon cœur et d'être riche en bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, en passant, ce n'est pas seulement faire du bien. Ce n'est pas seulement donner de l'argent à Sainte-Justine ou à un autre. Ce n'est pas seulement signer un chèque à la télé pour dire « j'ai donné 10 millions ». Faire des bonnes œuvres, c'est de faire exactement ce que Dieu te demande de faire là où ce qu'il te demande de le faire. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité et l'appel du geste. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main, Dieu ne veut pas qu'on aille sur Facebook et dire « ah, ce matin, moi, j'ai signé un chèque de 10 000 à la Bible parle. Que je suis généreux. » Non, tu es juste en train de dire, tu voulais sauver de l'impôt, tu as fait un geste. C'est correct. On comprend aussi ton langage. Mais c'est parce que Dieu demande en ce moment, sois riche en bonnes œuvres. Donc, tu peux être riche d'argent, riche de santé, riche intellectuellement, puis être pauvre de bonnes œuvres. Alors, ce matin, la réflexion à faire, c'est qu'il y a deux recommandations. Qu'est-ce que tu veux faire en tant que riche? Et là, j'entends des gens qui disent, « Oh, c'est pas pour moi, moi, j'ai que 20 $ dans mon compte de banque. » Ouais, mais tu es riche de santé. Tu es riche même d'être dans un pays riche. Et si vous n'avez jamais voyagé, vous n'avez jamais compris combien vous êtes bien et riche au Canada. Moi, j'ai le privilège de voyager et quand tu as un passeport canadien, j'ai l'impression que tu as un passeport du paradis. Toutes les autres font la ligne. Allez à Cuba, regardez les Américains, ils font la ligne à côté, mais les Canadiens passent comme si c'était chez eux. Le Canada a une très bonne réputation dans le monde. C'est une richesse. On est dans un pays, quoi qu'on dise, c'est vrai, on n'est pas d'accord avec toutes les lois, mais croyez-moi, encore au Québec, encore au Canada, il coule encore le lait et le miel. On peut encore dormir avec nos portes sans les barrer. C'est une preuve. Je ne le ferai pas, Mais on peut encore le faire. C'est quand même incroyable. Quand vous roulez dans d'autres pays, vous regardez des grandes maisons, ils ont tous des grillages aux États-Unis sur les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se faire dévaliser, défoncer, lancer des pierres. Nous, on s'assoit encore sur notre terrasse, on prend notre bière, on dit bonjour aux voisins, on coupe nos gazons, puis on s'endort au soleil sans se soucier que quelque chose de grave pourrait nous arriver. Mais ce n'est pas pareil partout dans le monde. Il y a des pays en guerre aujourd'hui. Pendant que nous nous baignons encore dans cette richesse, dans cette bonté, dans cette sécurité, entre parenthèses, pendant que Dieu nous fasse grâce, qu'il a encore sa main sur nous, adorons le Seigneur avec toute notre force et tout ce qu'il nous donne. Rachetons le temps, car les jours sont vraiment mauvais. Nous sommes dans une illusion de paix en ce moment. Vous avez tous oublié la COVID, hein? Ben oui. Vous avez tous oublié le couvre-feu? J'arrivais pas à croire qu'au Québec, j'ai dû faire de la vitesse sur la route pour arriver chez moi avant 8 heures. Ma femme n'était pas fâchée, je comprenais pas ce qui arrivait. Mais je devrais être chez moi avant 8 heures. À un moment donné, je me dis, attends, je suis-tu au Québec ou je suis... Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment eu un couvre-feu. La seule liberté qu'on a vraiment, elle est en Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu reste notre seule liberté, souverain sur notre vie en tout temps. Et la souveraineté de Dieu n'est pas dans notre vie, seulement quand ça nous fait du bien. Dieu est souverain pour Pierre quand il se fait couper la tête, les disciples. Il est aussi souverain pour Paul qu'il détache les chaînes et qu'il sort de la prison. Il est aussi souverain pour Jean qui s'est fait décapiter. C'est aussi sa souveraineté. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas quand ça fait mon affaire. Il est souverain dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est souverain sur ma vie à tout moment. Dans ma maladie, face à la mort, face à la richesse, face à la maladie, face à la bonté, face à toutes sortes de choses, ma prière devrait être, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et entre ces deux passages, on trouve au verset 11, ce qui me passionne, un conseil qu'il donne à un jeune pasteur. Et qui peut être pour chacun d'entre nous qui avons l'appel, car nous sommes tous des prêtres, pour le Seigneur. Verset 11, « Pour toi, homme de Dieu. » Là, il a parlé pour les faux docteurs. Il va dire maintenant, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. » Fuis les mauvais discours. Fuis les gens qui ont la maladie des questions oiseuses. Fuis des gens qui font des discours juste parler pour parler. Fuis-les. Ces gens-là, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ne sont pas du tout pieux. 2 Pierre 2 va donner un avertissement aux faux docteurs. Je lis pour vous. Il y a parmi vous, il y a parmi le peuple des faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans les dérèglements et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et la ruine ne sommeillent point. 2 Timothée 3, il va dire, traite emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Ils ont l'apparence des brebis, mais ce sont des loups. Et verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est un peu, je viens d'une culture où ce que nos parents nous disent tous, quoi ne pas faire. Fais pas ça. Fais pas ça, sinon tu sais ce qui va se passer. Fais pas ça. Mais la parole de Dieu est tellement belle, il dit, fais pas ça, mais fais plutôt ça. Oui, je fais pas ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il va dire à Timothée, fuis ces gens, cherche pas le gain de l'argent. Mais fais plutôt ça, homme de Dieu. Combat le bon combat de la foi. Cherche la justice. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement en tant que leader, pas seulement en tant que pasteur, mais à tous. Nous autres ici, on a le devoir de faire notre mieux pour marcher sans tâche et sans reproche devant Dieu. Est-ce qu'on va tomber? Est-ce qu'on va faillir? Est-ce qu'on va douter? Oui. Mais je vous ai déjà dit ici, le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais plutôt que celui, c'est celui que Dieu relève à toutes les fois qu'il tombe. Reconnaissez que vous avez péché, reconnaissez que vous avez fait quelque chose de mal et demandez pardon. Il est fidèle et juste pour vous pardonner. Et la recommandation qu'il fait à Timothée, il lui dit, voilà les mots de la richesse. Voilà ce qu'on peut faire de bien avec la richesse. Mais toi, homme de Dieu, cherche la piété. Mais qu'est-ce que c'est la piété? C'est quelqu'un qui a une définition de la piété ici? Ah, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire, vous avez une mauvaise réponse, vous pouvez parler. Hein. Selon vous, qu'est-ce que la piété? L'attachement à Dieu, quoi d'autre? Ça déjà résume beaucoup, hein. L'attachement à Dieu. Quoi d'autre? Pour vous, c'est quoi la piété? Oui, c'est l'attachement à Dieu. Encore, dans votre, vous avez déjà pensé à ça, ce n'est pas la première fois que vous avez vu le mot piété. Tu sais. Priorité. Hey, on a des théologiens dans la salle. Bien. L'obéissance, la connaissance, la piété, c'est de marcher dans les voies de Jésus-Christ qui a été le modèle pour tout homme. S'attacher à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le regarder comme modèle. Vouloir être comme lui. Tendre vers sa perfection. Mais ce n'est pas l'appel juste des pasteurs. C'est l'appel de chacun et chacune d'entre nous. On doit à toutes les journées qu'on a la santé dire, Seigneur, aide-moi à te ressembler davantage. Aide-moi à chercher ta justice. Aide-moi à chercher, Seigneur, à marcher dans la piété. Est-ce qu'on va toujours réussir? Non. Mais est-ce qu'il faut toujours essayer? Oui. Éloigne-toi de ces hommes qui sont des faux docteurs. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui vont vous enseigner un autre Christ, un autre évangile. Mais sachez que Dieu, il n'y a rien qui ne le surprend. Il nous a déjà dit, et Paul le dit dans sa parole, si quelqu'un annonce un autre évangile que celui qui vous a été annoncé, qu'il soit à... Beaucoup vont essayer. C'est pour ça, ici, on s'efforce. On s'efforce. Et on a des chiens de garde. Et on est des chiens de garde de la doctrine et de la parole de Dieu. J'aime bien quand Pasteur Jeff dit, moi, je suis un berger. Mais quand quelqu'un vient attaquer la doctrine, je deviens un berger allemand. Je suis quand même un berger. C'est notre travail. Mais ce n'est pas seulement notre travail. C'est aussi le vôtre. Vous devriez veiller sur votre conduite. Vous devriez vous-même lire, prendre la Bible, poser des questions. On n'est pas une église catholique. On ne garde pas la Bible puis on vous dit, nous, on a la vérité, vous, vous êtes... Non, non, on est un seul corps. Vous êtes tous des prêtres et sacrificateurs pour Jésus-Christ. pour Dieu le Père. Ce matin, je ne suis pas en train de vous dire, vous êtes riche, vous êtes mauvais. Oh, vous ne faites pas assez de bonne œuvre. Oh non, non, je suis en train de vous dire, regardez les Écritures et regardez votre vie, puis regardez ensuite si ça concorde aux Écritures. Sondez-les vous-même. Vous avez tous, ceux qui croient en Dieu, qui l'ont reçu comme son sauveur personnel, vous avez son esprit. Sondez par les Écritures, est-ce que votre vie concorde avec ce que dit la parole de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, découragez-vous pas, ne vous découragez pas. Allez vers Dieu et puis dire, Seigneur, dans cette sphère-là, dans cette sphère-là de ma vie, ça ne marche pas, aide-moi. Allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance, par lui. La redevabilité peut sauver des vies. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance, pas nécessairement au Journal de Montréal. Parlez avec une personne qui saura vous conseiller, prier avec vous. Il va dire, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui ont pour objectif dans la vie que de la richesse, ils tombent dans la tentation. Je suis en affaires, moi. Il y en a d'autres parmi vous qui sont en affaires. Ce n'est pas vrai que tous les hommes d'affaires sont des menteurs. Ce n'est pas vrai que tous les hommes d'affaires ne cherchent qu'à faire le gain de leur poche. Mais ce n'est pas vrai non plus qu'ils sont nombreux, ceux qui sont honnêtes. Mais vous, hommes de Dieu, vous, enfants de Dieu, que vous soyez en affaires, pas en affaires, que vous soyez, peu importe où ce que vous êtes, votre comportement doit témoigner Christ. J'aime bien dire aux gens, pourquoi vous voulez offrir une Bible à tout le monde? Je sais que c'est bon. On veut faire de l'évangélisation, on veut faire des porte-à-porte. Oui, c'est bien. Mais pourquoi voulez-vous offrir une Bible à quelqu'un afin qu'il connaisse Dieu? C'est vrai. Mais vous devriez être le premier témoin. Vous, votre vie devrait témoigner Christ afin que la personne ait envie de prendre votre Bible. Si dans mon travail, je suis vraiment l'employé, je n'utiliserai aucun terme, qui n'est pas très aimé, et je veux offrir une Bible à quelqu'un, il va me dire, la façon que tu vis, je ne la veux pas ta Bible. Mais est-ce que ma vie inspire les gens à venir à l'église? Est-ce que mon comportement attire quelqu'un à dire, hey, toi, tu es différent des autres? Est-ce que vous êtes la première Bible quand vous arrivez à quelque part? Est-ce que votre témoignage vous précède comme un bon témoignage? Quelle est votre réputation, ô homme de Dieu, femme de Dieu? Est-ce qu'à votre travail, vous avez un bon témoignage? Ou c'est dimanche matin, vous vous rappelez que vous êtes chrétien, vous mettez votre habit et vous venez ici, vous êtes heureux? Malheureusement, on n'est pas un chrétien du dimanche. On est croyant tous les jours de notre vie, à tout moment, à toute heure. Alors, le conseil d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, il est pour chacun d'entre nous. Je vous invite à relire le texte et à sonder votre vie. Est-ce que vous vous contentez de ce que vous avez? J'ai un petit témoignage pour vous. Okay? Moi, je cherche Dieu dans n'importe quoi et partout. Vous allez me dire, oh, non, non, je vous le dis, je vous donne un témoignage. La semaine passée, ma femme me dit, ah, il manque du pain à la maison. Oh, ça ne me tente pas d'aller acheter encore du pain. Puis là, je dis, Seigneur, regarde, je ne veux pas acheter du pain. Okay? Ça ne me tente pas de m'arrêter au dépanneur. Moi, je suis un gars, quand je pars du point A au point B. Toutes les arrêts au milieu m'énervent. Je n'aime pas m'arrêter. Je pars d'ici, je m'en vais chez nous. Dis-moi pas que tu as faim, tu as envie aux toilettes. Je pars d'ici, je m'en vais chez nous. Et là, je dis, Seigneur, regarde, moi, je ne veux pas acheter du pain. Je te remets ça. Je veux te voir dans les plus petites choses. OK. J'oublie. Et je sors de l'école, Mme Mélissa qui est ici, elle vient avec un gros panier. Elle me dit, hey, tu veux-tu du pain pour entrer à la maison? Écoutez comment notre cœur n'est pas bon. J'ai la réponse du Seigneur à ce que j'ai demandé. Et je ne fais pas comme les enfants qui sont courus vers les bonbons. Je suis comme, ah, je ne sais pas. Puis... Là, c'est comme si Dieu me dit, Là, je me rappelle de ce que j'ai demandé à Dieu. Puis là, je dis, OK, je vais prendre un sac. Là, Dieu me dit, arrête là. Regarde le panier. Là, je dis à Mélissa, OK, j'en prends deux, j'en prends trois, j'en prends quatre. J'en ai pris du pain. Puis Dieu a répondu à cette prière-là. Mais c'est quand même quoi? Vous allez me dire, oh, c'est juste du pain, il y a les moyens d'acheter du pain. Non, ce n'est pas les moyens. Je n'ai pas compté sur mes moyens. J'ai voulu faire confiance à Dieu dans une petite chose. Puis Dieu répond, ce n'est pas vos moyens. Peu importe les moyens que vous avez, peu importe le montant que vous avez dans votre compte, dites-vous que c'est des petits changes pour Dieu, ça. Peu importe. Les milliards et les milliards que vous avez dans votre compte, c'est ce que Dieu met dans son petit cochon. C'est rien. Puis écoutez l'égoïste du cœur. Moi, je vous l'avoue. Là, j'ai eu du pain en abondance. Mon corps fait plein. Là, je dis, ah, merci Seigneur, je suis content. Je rentre chez nous, j'arrive, ma femme a fait l'épicerie, il y a deux gros sacs de pain Costco. Là. OK, Seigneur, je sais que tu es drôle, mais exagère pas, là. J'ai eu du pain, c'est bon. Écoutez mon cœur. Là, ma femme est prise, il y a les enfants, elle est occupée, elle a des rendez-vous. Fait que le matin, je déjeune du pain, je suis content, j'aime le pain. Moi, je vous dis, si on me dit on te donne 1 million pour jamais manger du pain, je vous garde votre million. Moi, j'aime le pain. Je mange du pain. Là, je mange du pain le matin. Puis elle me dit, oh, j'ai pas le temps de te faire un lunch. Ah, oh, c'est pas grave, je m'en vais, j'amène du pain, je mange. Le soir, j'arrive, il n'y a pas de souper. Je dis, oh, pff, OK, je vais manger encore du pain. Puis là, je dis à ma femme, hey, ça fait 3 fois que je mange du pain. Puis Dieu me dit, égoïste que tu es. Tu as demandé du pain maintenant, tu en es trop rassasié, puis tu critiques. Mais Dieu nous montre notre cœur. Mais c'est ça la beauté de Dieu. Il ne m'a pas chassé, il ne m'a pas exterminé. C'était de l'humour, c'est un père, c'est une personne vivante. Ce n'est pas une philosophie. Il est vivant, notre Dieu. Il rit même. Et moi, je suis béni. Je suis simplement béni de faire partie de cette famille qui est celle de Dieu. Et regarde le titre qu'il donne à Timothée au verset 11. « Pour toi, homme de Dieu. » Tout le monde veut être appelé, tout le monde veut être connu, tout le monde veut être star. Mais je vous dis, le plus beau titre que vous pouvez avoir, la plus belle appellation, c'est « homme et femme de Dieu ». Pourquoi? Parce que, il va dire aux riches, parce que vous bâtissez sur le bon fondement. De Corinthiens nous parle. Qui est le bon fondement? Christ. Vous investissez en faisant des bonnes œuvres dans une banque qui ne porte que des intérêts et des intérêts éternels. Vous mettez votre argent, des placements, ça monte et ça descend. Avec Dieu, ça fait que monter. Moi, les riches qui sont, je viens de vous donner, vous pouvez me donner 10%, je viens de vous donner une façon d'investir. Investissez dans le Seigneur. Beaucoup d'entre vous le fassiez déjà. Vous le faites déjà. Continuez à être riche de bonnes œuvres. Priez, criez au Seigneur, suppliez le Seigneur afin qu'il vous dise où ce qu'il veut que vous soyez. Encore une fois, pas seulement en argent, votre temps est précieux. On dit le temps, c'est de l'argent, c'est complètement faux. On fait, les dictons, des fois, ils me font flipper. Le temps, c'est de l'argent, vous êtes malade. L'argent, je sais combien il m'en reste, le temps, je ne le sais pas. Déjà là, ça ne marche pas. Si tu me dis que le temps, c'est de l'argent, c'est que tu évalues mon temps selon les critères de ton argent. Ça ne marche pas. Quel est le prix de la vie? C'est Dieu qui donne la vie. Comment je peux comparer quelque chose de partiel, d'éphémère, à quelque chose d'éternel? Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Chaque jour que vous vivez, remerciez Dieu parce que vous ne pouvez pas payer ce temps. Faites un tour, vous voir des riches qui meurent avec des milliards et qui ne peuvent pas ajouter une seule seconde à leur vie, vous verrez que l'argent n'a rien à voir avec le temps. Le souffle que Dieu vous donne, cherchez la justice avec. Cherchez à faire du bien avec. Cherchez à poser de bonnes actions, de faire de bonnes œuvres, de parler de Christ à chaque occasion. Et vous n'avez pas besoin d'être riche pour ça. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour dire à quelqu'un, tu mènes une mauvaise vie. Vous n'avez pas besoin d'être riche à quelqu'un pour dire, Dieu donne la liberté. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour prier avec quelqu'un qui est dans le besoin, dans la maladie, dans la disette. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour ça. Si vous avez Christ, vous avez tout. Si vous avez Christ, vous avez tout. Seulement si vous avez Christ. Et vous n'avez pas Christ parce que votre grand-père a eu Christ. Vous n'avez pas Christ parce que votre père croit en Dieu. Vous n'avez pas Christ parce que vous êtes né dans une famille chrétienne. Moi, j'aime bien dire à mes élèves, Dieu est le père de tous, il est le grand-père de personne. Est-ce que vous avez reçu votre frère Christ dans votre vie comme votre seul et unique sauveur? Si et seulement si vous avez Christ comme sauveur, et vous ne comptez que sur lui, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce matin, je vous laisse analyser tout ça. Je vous laisse sonder votre cœur. Je vous laisse penser à tout ça, mâcher tout ça, et vous poser la question, est-ce que j'ai Christ dans ma vie? Est-ce que Christ m'a reçu dans sa vie? Est-ce que je fais partie de la famille de Dieu? Et si c'est le cas, continuez à marcher vers cette perfection. Si ce n'est pas le cas, par contre, il y a un gros problème. Ce matin, les anciens ont discuté de cette nouvelle mode de mourir sereinement. On ne veut plus souffrir. Dès qu'on ne souffre pas, c'est rendu que c'est une belle mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la mort de Christ à la croix? C'était une mauvaise? C'est quoi cette mode? On meurt comme Dieu veut qu'on meure. Ceux qui se sont fait décapiter, c'est quoi? Ils n'étaient pas à la mode? Ils ne sont pas morts sereinement? Dans la souffrance, je sais que c'est dur. Moi, ça va faire un an que... Notre père est parti voir le Seigneur. J'ai vu mon père souffrir. Et ma prière était toujours la même chose. Dans la souffrance, comme dans la maladie, donne-nous la paix d'aller te trouver comme tu l'as voulu. C'est ça la prière du croyant. Les disciples, quand ils se faisaient décapiter, Dieu leur accordait le nécessaire pour passer par cette mort. Lorsque vous serez dans un moment, dans un stade de votre vie où ce que vous ferez face à la souffrance, Dieu vous accordera toutes les provisions nécessaires. Croyez-moi. Jean-Baptiste est allé dire, « Es-tu celui qui doit venir ?» Il était en prison. Et Jésus l'a répondu, pas, oui, oui, je suis moi. Non, non, il a dit, regarde, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Tu t'inquiètes, je sais. Tu doutes, je sais. Tu souffres, je sais. Mais tout ce qui a été dit que je ferai, ils sont faits. N'est-ce pas, Jean-Baptiste? Maintenant, tu as peur de te faire couper la tête. Ce n'est pas grave. Elle va être coupée. Ce n'est pas grave. Je vais te la recoller l'autre bord. Mais ici, elle doit être coupée. Mais je t'accorde le nécessaire pour aller vers ça. Dans nos souffrances aujourd'hui, regardez à Christ. Car si vous ne regardez qu'à vous, vous ne pouvez pas passer au travers. C'est impossible. Souffrir, c'est dur. Ça fait mal. Mais on a besoin de regarder à quelqu'un de plus grand que nous. Et quelqu'un qui a souffert beaucoup plus que nous. Et ce quelqu'un s'attache à nous dans la souffrance. Christ nous a montré qu'il n'est pas à l'extérieur de nos souffrances. Il a souffert afin que nous ayons la vie. Quand on souffre, on nous demande où est Dieu, mais exactement dans ma souffrance. Dieu ne nous laisse jamais souffrir tout seul. Il ne nous donnera aucune épreuve qui est au-delà de nos forces. Donc, dans la souffrance que vous êtes en ce moment, hommes et femmes de Dieu, cherchez la volonté de Dieu parce qu'elle est parfaite pour vous. Ne demandez pas de sortir de la souffrance, mais plutôt, Seigneur, permets que je puisse te trouver dans ma souffrance. Ce matin, je vais finir avec ce verset pour boucler parce que je sais qu'il reste que 10 minutes entre moi et un bon repas. Hébreux 13, verset 5. Que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Je répète, que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez. Est-ce que ça veut dire de ne pas aller en chercher plus, de ne pas en donner plus? Non. Ne faites pas de Mammon votre Dieu. Mais plutôt, qu'est-ce qui inspire votre conduite? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit Saint en vous? Si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie. Quand vous donnez à l'Église, est-ce que vous dites, attends, laisse-moi voir, OK? OK, j'ai payé toutes mes affaires. OK, là, j'ai de l'argent pour partir en voyage. Oh, il y a un petit quelque chose en spécial. Ouais, on va le prendre. Chérie, est-ce que tu veux aller au Tim Hortons? Oui, on fait ça. Ah, il reste 3 piastres. Ah, on va le donner à l'Église. Non, non, vous riez. Mais réfléchissez, comment vous gérez ce que vous donnez à Dieu? Est-ce que c'est vous recevez et vous dites, Seigneur, voilà ta part. Ensuite, sous ce qui me reste, apprends-moi à budgéter. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Pensez à ça. Pensez à ça. Je finis avec un petit geste que j'ai vu d'une de mes filles. Elle avait un biscuit et mon plus jeune disait, ah non, 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 moi je ne veux pas. Elle dit, donne-moi un morceau. Elle dit, non, non, moi je ne veux pas partager. Tu sais? Elle dit, OK. Elle lui donne. Puis elle dit, t'as tout maintenant. Maintenant, est-ce que je peux avoir un morceau? Et il casse, il lui donne. Mais oui, mais c'est la même chose que Dieu fait avec nous. On a l'impression que tout ce qu'on a nous appartient. Oh, mangez bien, faites du sport, dormez, toutes c'est des bonnes choses. Mais sans Dieu, vous allez quand même en enfer. On peut aller en enfer en parfaite santé. Comme on peut rentrer dans l'éternité bienheureuse de Dieu avec une maladie terrible. La façon qu'on va passer de l'autre côté, ça lui appartient. Nous, ce qu'il nous demande, recherche la justice et fais-moi confiance. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, merci pour ta grâce. Bénis ce repas qu'on va manger ensemble, bénis cette église. Et Seigneur, je profite, Seigneur, pour te dire, Seigneur, s'il y en a dans la salle qui n'ont pas encore connu, Seigneur, qui ne t'ont pas encore connu. Permets qu'ils puissent venir nous voir, Seigneur, un des pasteurs, un des anciens ici, Seigneur, et qu'on puisse prier avec eux. Que cette journée où ce qu'on va donner le rapport de ce que tu nous as donné pour administrer, Seigneur, puisse, Seigneur, faire reflet de ta gloire et de l'intégrité que tu nous as accordée, Père. Bénis ce matin, bénis chacun d'entre nous, et que ton nom soit béni, car, Seigneur, à toi seul la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.